Vous écoutez
RMC.
RMC.
Le mec, il a trois sélections, il vient du Diable Vauvert, hop, trois sélections, il met deux buts. Pourquoi tu lui donnes pas sa chance? Ça te donne un arc, une possibilité supplémentaire.
Le seul truc qu'on voit vraiment de palpable, et qui est palpable visuellement, enfin, ça veut rien dire ce que je dis, mais...
Man, quelle surprise! Just imagine, they can go top of the table in Ligue 1 if they win on Friday night at home against Lille.
Il y a Florentino qui était sur la ligne, il fait...
Mais qu'est-ce que c'est ça? Fred Hermel, tu parles de Barça? Mais qu'est-ce que ça?
Il était coupé la ligne.
20h-22h, Génération After.
Merci d'être là avec nous. Les drôles de dames sont là. Julien Laurence, Paulo Breitner, Fred Hermel, Johan Crochet jusqu'à 22h. D'ailleurs, 21h45. Si vous voulez poser vos questions à l'une ou à plusieurs de nos drôles de dames, n'hésitez pas à vous nous appeler au 32-16. Et vous êtes en direct sur RMC face aux drôles de dames dans cette deuxième heure. À suivre, le Barça qui revient au top, notamment grâce à des joueurs que beaucoup voulaient voir partir. Tottenham qui n'y arrive plus. Et puis, 21h30. Dossier très intéressant ce soir, particulièrement intéressant, entre la mafia et les ultras en Italie. Liaison dangereuse. Johan Crochet, Daniel nous rejoindra également pour ce sujet. Mais pour commencer cette deuxième heure, mon cher Polo, le Bayern qui vient de passer une sale semaine, hein, 3 matchs sans victoire. Le Bayern tenu en échec à Francfort, 3 partout. Mais ce Bayern-là ne s'affole plus, Polo?
Ah, moi je dirais plutôt l'inverse, c'est-à-dire que le Bayern domine mais ne gagne pas, c'est-à-dire qu'on est en train, médiatiquement en tout cas, à assister à des médias allemands qui commencent enfin, j'ai envie de dire, à se réveiller. Depuis le début de l'arrivée du Belge Vincent Kompany, ils en ont plein la bouche, c'est merveilleux, c'est ceci, c'est cela. C'est un petit peu plus complexe que ça, et évidemment on est dans cette logique de crise de résultats, expression qui a été remise à la mode, version Nagelsmann à l'époque, pour expliquer qu'on jouait bien mais que ça va venir, etc. Et autant on pouvait le comprendre à l'époque chez Nagelsmann, là pour moi c'est beaucoup plus complexe pour une raison bien simple. Déjà, je m'étais pas emballé, et j'avais demandé dans le podcast qu'on avait fait sur Vincent Kompany qu'on attende un peu cette semaine pour voir où on en était vraiment avec le Bayern. Donc il y a eu le match nul à domicile où ils ont dominé évidemment Leverkusen, mais ça fait 1-1. Il y a eu la défaite à Aston Villa avec la position de Manuel Neuer, et que je vais défendre d'ailleurs, et le 3-3 à Francfort ce week-end. Ce qui est impressionnant, c'est que pour la première fois depuis, on va dire, 24 heures, on va dire le résultat de ce week-end, la presse allemande commence à se poser certaines bonnes questions. C'est-à-dire que Kicker, ce lundi, a commencé à dire « cette équipe prend trop de risques ». La Süddeutsche Zeitung a commencé à dire « peut-être que pour le championnat, ça suffit, mais pour la Ligue des Champions, ça ne suffira pas ». Et ils disent très clairement, ils visent Vincent Kompany et sa profession de foi footballistique, c'est-à-dire l'ultra-domination par rapport aux adversaires, mais qui pose d'énormes problèmes de positionnement de son bloc dans l'équipe, parce que l'équipe se retrouve en 2-3-5 en fait, avec ce que moi j'appelle des terrains incognita, c'est-à-dire que tu as des zones dans le terrain où il n'y a aucun Bavarois, il suffit que l'adversaire envoie un ballon là-bas avec deux flèches, des ailiers qui sont super rapides, et à la fin ça fait but. C'est un peu le scénario de ce qui s'est passé encore une fois ce week-end. Alors évidemment, le Bayern Munich a couru, et ça c'est une excellente chose, 123 km ce week-end. C'est beaucoup pour le Bayern Munich, ça n'a pas toujours été le cas, et en général ils ont une supériorité technique qui leur permet de limiter ça. Mais ce qui est important, c'est que la prise de risque offensive est tellement grande qu'il y a un trio qui se retrouve, c'est les dindons de la farce, c'est Manuel Neuer qui est forcé de jouer extrêmement haut, au point qu'on peut se prendre un but magnifique à Aston Villa, à Villa Park, où tu as des défenseurs centraux, ou Upamecano et Minier, qui sont remis en confiance via le coach belge, mais qui sont sur la corde raide pendant 90 minutes, parce qu'ils doivent absolument avoir sortir le bon geste au bon moment, et évidemment tout le monde leur tombe dessus s'ils ratent un geste. Donc en fait on est en train de changer peut-être. Alors moi là, pourquoi est-ce que j'étais un petit peu comme ça, et que je me méfiais de tout ce qui était dithyrambique depuis le Bayern au début, déjà parce que quand tu mènes 3-0 et contre tu reviens 3-2 contre le Dynamo de Zagreb, t'as le droit de te poser des questions. Pourquoi est-ce que j'étais comme ça, c'est que déjà moi ça me rappelle un petit peu ce que vivait Hansi Flick la deuxième saison. Rappelez-vous la défaite en Ligue des Champions, le fameux 2-3 au Bayern. On avait dit à l'époque que le Bayern était un peu trop haut, etc. Et quand je vois Vincent Kompany, la façon dont il joue, attention, c'est une ultra-domination, pour employer une expression qu'utilise Johan. C'est 76% de possession, c'est 4 fois plus de tirs, c'est, on l'a dit, des kilométrages dans tous les sens. Mais là, on est au mois d'octobre. Qu'est-ce qui va se passer au mois d'avril, au mois de mai? Est-ce que, dans quel état ils vont être, les joueurs, là?
Physiquement, tu...
Mais j'en sais rien. Ouais, moi, ce que je constate, c'est qu'à l'heure de jeu, vers la 60e, ça s'est pas vu, là, contre Francfort, mais dans certains matchs avant, à 60e minute, 65e minute, tu voyais le Bayern qui baissait un petit peu physiquement. Et je me demande finalement si, à force de vouloir presque copier Guardiola, parce qu'il s'estime, comme beaucoup de coachs, un peu un disciple de Pep Guardiola, qui veut pas aller un peu trop vite, Pep Compagnie, pour dire que c'est un peu trop facile ce qui se passe. Et moi, si tu mènes 3-0 au bout de 30 minutes, t'es pas forcé à nouveau de continuer à attaquer pour gagner tous les matchs 8-0. Mais je pense qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là, et que le fait que la presse allemande commence à se poser, j'ai pas envie de dire de bonnes questions, parce que ça signifierait que j'ai eu raison, mais de se poser des questions si finalement ce n'est pas trop dangereux, ce système de jeu. Imaginons le Real. Mais le Real, t'es Ancelotti, tu t'amuses. Tu étais là, tu te dis, Mbappé, t'as rien à faire là, bah tu vas aller te mettre là-bas, cette position, dès qu'on récupère le ballon aux 30 mètres. Ça, si ça fait but à chaque fois, ça devient compliqué pour le Bayern Munich. Donc, c'est fabuleux ce que fait Vincent Kompany. De là à dire qu'il a trouvé la solution miracle et qu'on a un nouveau Bayern, moi je me méfie.
J'aimerais t'entendre sur nos Français qui ont brillé lors de ce match-là, ce 3 partout, notamment Michael Olysee, vraiment au top en ce début de saison.
Il est top, ouais, mais moi je voudrais qu'il devienne le leader. Ça, c'est évidemment un peu trop tôt. Moussiala n'était pas là, n'oublions pas. Il y a c'est Thomas Müller, bien sûr. Moi, ce que je reprocherais, mais c'est un peu plus le match contre Aston Villa, c'est moi j'ai été très déçu par son positionnement à côté d'Harry Kane, plus que sur le côté droit. Et d'ailleurs, ça a changé la phase du jeu. Je parle sur le contrôle de Julien, qui l'a beaucoup plus vu que moi en première ligue. C'est que son véritable positionnement, c'est un attaquant d'aile en fait, et attaquant d'aile droite, c'est pas forcément un deuxième attaquant. Et c'est pas un meneur de jeu pour compenser l'absence de Moussiala. Ce qui est sûr, c'est qu'il a sa spéciale, un peu à la Robben, quoi, pour faire briller les gardiens adverses, ou alors il prend la lucarne. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas vu un tel talent depuis longtemps. Maintenant, quand je vois qu'on commence à les comparer à Robben, à Ribéry, ça va, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut attendre un petit peu que ces gamins fassent leur carrière. Il a une facilité, une légèreté technique qui est au-dessus de la moyenne, ça c'est très clair. Je pense que c'est un excellent choix qu'a fait le Bayern Munich. Mais regardez Kingsley Coman. Beaucoup de personnes avaient plein la bouche quand Kingsley Coman a commencé au Bayern. Aujourd'hui, il est plus remplaçant qu'autre chose. Et il n'est pas au niveau d'un Serge Gnabry, par exemple, et d'un Olysee. Donc, moi, je vais attendre un petit peu. On est encore en début de saison. Mais je pense qu'il y a quand même quelques questions à se poser au Bayern Munich. Et on peut pas ne jouer que sur l'offensive comme ça, c'est pas possible, quoi.
Le tout pour l'attaque, le fameux. Dans quelques minutes, le Barça, avec la revanche de certains joueurs que beaucoup voulaient voir partir, mais à 21h08 sur RMC. Place à une nouvelle minute. Et attention, la minute de Johan Crochet. Vraiment un lover, celui-là, en fait. T'aimes bien aussi ça?
Francesco Buccini, titre très simple, Argentina. Déclaration d'amour à l'Argentine, évidemment.
J'aime moins tout de suite.
Et pour parler d'un Italo-Argentin qui marche très bien en Serie A encore cette saison, Matteo Retegui. Comment une blessure d'un joueur d'un club adverse peut te changer ta carrière? Scamacca se blesse cet été, attaquant de l'Atalanta, gravement, puisque absent quasiment toute la saison. On l'espère début 2025, mais il faudra prendre beaucoup de précautions. Et l'Atalanta a besoin d'un numéro 9, fait Retegui en même pas 48 heures, attaquant au Genoa, qui a fait plutôt une bonne saison, mais pas exceptionnelle non plus. Et il arrive à l'Atalanta, option offensive numéro 1, 7 buts en 7 matchs. Scamacca blessé, ça veut aussi dire que Retegui en sélection nationale italienne a le poste d'attaquant prioritaire aussi. En plus là, Moisken s'est blessé, enfin a une lombalgie. Ils ont appelé, donc pourra pas jouer lors des matchs de l'Italie là. Et donc c'est Lorenzo Luca de l'Udinese qui a été appelé. Donc tout va bien pour Matteo Retegui, auteur d'un triplé ce week-end contre le Genoa, son ancien club, et qui est en plus très très bon, qui je pense, doit s'imposer un peu plus en sélection nationale. Il a eu beaucoup de difficultés au début sur la langue, qu'il ne parlait pas. Maintenant, ça va mieux. On sent qu'il parfait son entente aussi avec ses coéquipiers. Et j'aimerais le voir décoller vraiment, vraiment. C'est-à-dire réussir à l'Atalanta ce que d'autres ont fait avant lui, devenir un joueur majeur et devenir un joueur majeur aussi en sélection.
Merci, Johan. Bien aimé ta petite musique.
On a eu de passer vacances déjà.
Ouais, ouais. Là, je m'y vois.
Mais ce qui est dur, les vacances, c'est, c'est quand il pense. En fait.
Bon, après, c'est nul la vacances.
Non, mais.
Surtout quand il pleut dans les pouilles.
Ouais, ouais.
Non, parce que ça,
mais non, mais les vacances,
c'est quand tu retournes dans ton nord, toi. Mais
non, non, mais les vacances, quand tu rêves aux vacances, que tu... c'est ça, c'est le meilleur moment, en fait.
Quand t'es dans l'avion pour y aller aussi ou dans le train, c'est pas mal aussi.
Oui,
ça dépend où tu vas. Tu vas chez la belle-mère, c'est. Autre chose.
Pas varié.
21h11. Eh oui, génération after spécial drôle de dames jusqu'à 22h. 21h45. Le 32-16, vous nous appelez. Les drôles de dames sont à vous. Et dans un instant, le Barça au programme. Le Barça au top avec Lewandowski et Rafinha. Plus Tottenham également au programme. Et là, c'est compliqué. Postecoglou n'y arrive plus. Rendez-vous dans un instant sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Thibaut Giangrande.
Avec Julien Laurence, Paulo Breitner, Fred Hermel et Johan Crochet jusqu'à 22h, comme tous les lundis soirs. Merci d'être là, toujours en direct sur YouTube, la chaîne de l'After. Vous pouvez venir nous voir.
On parlait des villes qui étaient sympas et pas sympas, voilà. On va dire des trucs...
Fredo et Johan...
Non, on va passer avec des gens. Non, mais il y a des endroits où t'es mieux reçu que dans d'autres.
Ah oui. Tu
parles... Mais non, mais on parlait de villes comme ça, même à l'étranger et tout ça, il y a des... Je sais pas, quand tu vas à Madrid, t'es hyper bien accueilli par d'où tu viennes, Madrid, une ville accueillante.
Dans le Nord, tu es bien reçu, par exemple.
Ah bah, dans le Nord, mais à chaque fois, moi, c'est l'enfant prodigue qui revient, enfin.
Partout?
Partout.
Lens, Dunkerque, mais Tourcoing, bien sûr. Lille.
Même à Lille,
bien sûr. T'es chez toi.
Mais Lille, j'étais très heureux à Lille, moi. J'ai commencé ma carrière à Lille, j'étais étudiant à Lille. Je vais même te dire que j'étais en résidence universitaire, qui n'existe plus aujourd'hui, au bout du métro. C'était la résidence Albert Camus. Juste à côté de là où il y a le stade Pierre-Mauroy, maintenant. À l'époque, 88, il n'y avait pas le stade Pierre-Mauroy.
J'ai
de très bons souvenirs à Lille.
Magnifique.
J'aime beaucoup Lille. C'est une ville qui sera toujours dans mon cœur.
À 21h30, Mafia et Ultra, les liaisons dangereuses en Serie A. Vous avez peut-être entendu parler d'un coup de filet la semaine dernière. La police qui a arrêté des Ultras de Milan, de l'Inter, soupçonnés d'avoir des liens avec la Mafia. Johan va nous expliquer ces liens. Daniel Riolo va nous rejoindre également. Et puis dans une demi-heure, les drôles de dames face à vous au 32-16. Mais d'abord, Fredo, le Barça au top, toujours en tête de la Liga, avec des hommes qui brillent, que certains voulaient voir partir. Victoire contre Alavés 3-0, victoire signée Lewandowski et Rafinha.
Oui, alors c'était fou parce que quand même, il y a eu d'ailleurs un très bon article dans Marca là-dessus, qui soulignait, parce qu'on sait en Espagne, l'opinion c'est hyper important. C'est un journalisme d'opinion en Espagne, donc même dans un article normal, il y a de l'opinion, il n'y a pas que les faits, il y a aussi une prise de prise de parti. Et là, c'est un très bon papier. Et puis c'est vrai que ce qu'on se dit, c'est que le Barça, avec ses problèmes d'argent cet été, il y avait des gens très intelligents, très très forts au sein du club, qui pensaient que que Lewandowski finalement avait fait une très très belle première saison, mais que l'an dernier. C'était pas terrible et que s'il y avait une offre pour Lewandowski et Lewandowski avait dû expliquer que non lui voulait continuer au Barça. Ensuite sur Rafinha, les gens disaient ouais Rafinha bon pas mal mais enfin ça n'a pas été génial. Puis Rafinha il y a sûrement du fric à se faire en le vendant à l'angle. Il y a bien un club anglais, c'est vrai, c'est un international comme lui et tout ça, voilà. Bref, intelligemment les dirigeants ont décidé de garder Rafinha et de garder Lewandowski et ce sont avec Yamil Lamal qui est tellement extraordinaire, ce sont les deux joueurs les plus importants du Barça. La victoire à Vitoria, parce qu'à Alavés c'est le club, c'est le nom du club, c'est la province d'Alava, et la ville c'est Vitoria, la capitale du Pays Basque. Mais cette victoire, elle était construite avec un hat-trick de Lewandowski et deux passes décisives de Rafinha, dont la deuxième est absolument extraordinaire. Donc voilà, ce sont des joueurs majeurs qui auraient pu ne plus être là. Donc c'est une très très belle revanche pour eux. Et Lewandowski, j'essayais de réfléchir, en regardant le match, je me disais, mais pourquoi Lewandowski se sent mieux cette saison que l'an dernier, par exemple? Et là aussi, Hansi Flick, bien sûr aussi. Il y a quand même beaucoup plus d'espace dans le jeu d'Hansi Flick avec le jeu de Xavi. Donc lui-même reconnaît, il n'a pas critiqué Xavi, mais il a dit, c'est vrai qu'aujourd'hui les ballons m'arrivent mieux et j'ai plus d'espace pour m'exprimer. Donc voilà, on est avec un Barça qui est en train de récupérer des blessés, ça, ça va être important parce que c'est vrai que il y a des petits jeunes qui ont été très bons. Enfin là, il y a, les, il y a des poids lourds qui reviennent. Donc ça va être très intéressant de suivre cette équipe dans les prochaines semaines, bien entendu, mais de voir aussi Lewandowski qui est là aujourd'hui bien parti pour gagner le Pichichi. Donc il en est à 12 buts en 9 matchs. Ce qui est quand même pas mal. Ouais, ouais, c'est un très beau. Mais j'ai comparé par rapport à ses statistiques quand il était au Bayern. Il est légèrement en dessous de ce qu'il faisait au Bayern. C'est dire ce qu'il faisait au Bayern.
Mmh. Ah oui, c'est vrai que ça a été monumental. Le Barça qui a 3
points. Ça
va.
Non, mais c'est vrai.
Ça passait, quoi.
Non, mais tu te rappelles, il mettait plus de buts encore. Si au bout de 9 journées en Allemagne, toutes les saisons, il avait plus que 12 buts. Mais ce qu'il fait là au Barça, c'est vraiment bien, quoi. Et surtout parce que lui, il a eu vraiment envie de rester, quoi.
Et le Barça qui réalise vraiment un très bon début de saison, ils sont au-dessus du Real assez nettement, tu dirais, ou pas pour l'instant?
Dans le jeu. Bien plus alors, en dans place. La qualité du jeu, oui. Ouais. Oui, parce que le Real joue mal. Hein. Ouais. Le Real joue très mal. Donc,
ils ont gagné ce week-end, mais sans briller,
ouais. Ça me déçoit de voir Villarreal, qui était l'une des meilleures équipes, se faire battre finalement assez facilement par un mauvais Real et après avoir pris une branlée par le Barça. Donc ça aussi, on est vraiment sur un duo Real-Barça. On sait déjà que la Liga est pour le Real ou pour le Barça, parce que l'Atlético aussi est décroché. Ils sont déjà à 7 points du Barça. Donc mais ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Le match hier à la Real Sociedad, quand tu gagnes au bout de 35 secondes, je crois, au bout de 35 secondes, et qu'après tu cherches pas, t'as 90 minutes pour essayer de chercher de marquer le deuxième but et que tu ne cherches pas, et ben oui, tu peux te prendre un but en toute fin de match, et c'est bien fait.
Ils ont marqué un but précoce à la Brentford, à la Julien Laurence, qu'on retrouve pour nous parler de Tottenham. Tottenham, Julien, encore battu ce week-end, 3-2 à Brighton. C'était, tu nous disais tout à l'heure, le match du week-end, mais c'est vrai qu'on a l'impression que Postecoglou n'y arrive plus. 9e hein, simplement Tottenham ce soir.
Ouais, alors ils sortaient quand même de 5 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Si tu veux refaire ton introduction.
On va couper tout ça, on le mettra pas dans le podcast. Alors attends, bouge pas, on va leur faire 3-2, on est pas en direct. Là. Alors Tottenham qui a été battu, pourtant ça allait mieux ces dernières semaines. Julien. Tu vois, on l'a perdu. Ouais, non, on t'entend pas très bien. Je sais pas si c'est sur ce que tu dis ou pas. Tu vois, tu me contredis, ça marche plus, c'est bizarre. Tu devrais faire attention, Julien. Vas-y, retente. Non, je crois quoi.
Non, mais je disais juste que tu avais bien fait souligner que ça marche mieux parce que t'en avais oublié.
Comme quoi,
problème technique.
Voilà, non, mais c'est une bonne leçon pour toutes les drôles de dames. Faut quand même pas trop essayer de contredire le présentateur. 21h21.
Oh là là!
Un petit coup de Nico Jamin, ça fait du bien ou pas? Dans 10 minutes. Il arrive à 22h, hein, Nico Jamin, pour l'after avec Daniel Rio et Flo Gautreau. Normalement, la semaine prochaine.
La semaine prochaine, jusque là, ça fait 3 fois.
Parce que là, si vous écoutez RMC, demain, le retour du boss, Gilbert Bribois, et donc par jeu de chaise musicale, tout le monde va retrouver son poste. Nico Jamin, c'est drôle de dame, et moi, remplaçant. Donc, c'est là où je m'épanouis aussi.
Mais toi, tu profites de la blessure des autres, en fait.
Bah, c'est ça, exactement.
C'est un peu notre Matteo Retegui.
Ouais, exactement. Dans 10 minutes, le dossier sur la mafia et les ultras en Serie A, les liaisons dangereuses avec Yohan Crochet, avec Daniel Riolo. Il y a la minute de Polo Assive, et puis à 21h45, on vous attend nombreux au 32-16, venez poser vos questions aux drôles de dames sur RMC. Julien Laurence, Polo Breitner, Fred Hermel et Yohan Crochet vous attendent. Juste avant de récupérer Julien, c'est le moment, 21h22, podcast. Je vous le rappelle, il y en a encore des tout frais qui viennent de sortir aujourd'hui, c'est la nouveauté de la saison. Si vous aimez vos drôles de dames, sachez que désormais, toutes les semaines, vous avez des podcasts avec chacune de vos drôles de dames. Podcast Angleterre, podcast Allemagne, podcast Italie, podcast Espagne avec chacun de vous quatre. Et
on prépare un podcast Espagne très intéressant autour de Vinicius. Que se passe-t-il autour de Vinicius? Le racisme, tout ça. Pourquoi est-ce qu'il est sifflé? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de problèmes avec les publics? Donc ça va être un podcast dédié à la relation de Vinicius avec les supporters en Espagne.
Ce sera cette semaine. L'Italie tournée aujourd'hui, Johan.
Exactement. On a parlé d'une association de la Lazio antifasciste qui essaye de changer l'image de la Lazio.
Bon courage. Hein.
Il y a beaucoup de boulot, mais ils font un gros travail.
Polo, t'as fait quoi cette semaine ou fin de semaine dernière?
On n'est pas encore. La semaine dernière, on a eu Joshua Guidavogui, ancien joueur qui a joué plus d'une décennie au VfL Wolfsburg.
Tellement sympa.
Et cette semaine, si je ne me trompe pas, on va avoir un gardien français et on va comparer les performances des gardiens français avec les, vous savez qu'il y a beaucoup de blessés en équipe nationale d'Allemagne, avec justement au niveau de la formation, etc., avec les gardiens allemands. Et il y a plusieurs sujets qui sont en préparation. J'en profite juste pour répondre à... J'ai reçu pas mal de messages cet après-midi pour ce qui se passe au Hertha Berlin avec la faillite programmée de 767 partenaires. Et on est en train de préparer pendant quelques semaines un podcast spécial sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'est passé au Hertha Berlin, financièrement parlant.
Et d'ailleurs, même problème au Genoa, puisque même propriétaire.
Et puis, puisque tu parles de podcast, il y a toujours le podcast des livres RMC présenté par Fred Hermès.
Ah oui, c'est ça. Bah, tu peux aussi retrouver l'œil du Tib tous les week-ends dans la
Bah voilà, voilà. C'est, bah, chacun vend sa sauce.
Et attendez, vous avez oublié, parce que tout ça, vos podcasts sont très bien, mais le meilleur des tous reste quand même l'After Angleterre, puisque on a fait avec Julien Laurence en fin de semaine dernière un très beau sujet sur Cole Palmer. Et on va retrouver Julien dans quelques minutes. Pourquoi je dis ça?
Parce que tu m'as coupé, parce que je parlais du podcast des livres RMC.
Oui.
Où Fred Hermel parle de littérature, mais sur un ton léger, tu vois ce que je veux dire? Un peu comme ça. Quand je parle de foot, je parle de livres.
C'est un peu ça la diff, quoi.
Moi, je considère que les podcasts espagnols, italiens et allemands, comparés aux résultats de la première ligue, qui bénéficient évidemment d'une couverture médiatique inadmissible et très, très, très sérieux, quand même.
Merci Polo.
On peut dire du mal du génie en tant que.
Oui, là, c'est ça. Minutes. Il va revenir juste après la petite pub. Merci pour vos messages. Hein. Je vois dans le chat, vous êtes gentils. 21h25, petite pause. Et on retrouve nos quatre drôles de dames pour dire un mot de Tottenham, si on y arrive. Et les liaisons dangereuses entre Mafia et Ultra en Serie A avec Johan Crochet.
Très bonne
avec
liaison.
Daniel Rieu.
Par rapport à la liaison.
Dangereuse?
Oui.
Tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Thibaut Giangrande.
Il est 21h28, merci d'être là, j'espère que vous passez une bonne soirée sur RMC. Les drôles de dames au programme, comme tous les lundis entre 20h et 22h, Julien Laurence, Polo Breitner, Fred Hermel, Johan Crochet dans un quart d'heure. Les drôles de dames sont à vous, 21h45, vous nous appelez et vous leur posez vos questions, toujours en direct sur YouTube, la chaîne de l'After, où Fabinho nous dit on devrait renommer Génération After les crânes de l'After. Ouais, c'est vrai que il y a du joli crâne. Et encore, c'est encore mieux quand c'est Gilbert qui présente, même s'il rentre demain avec des cheveux. Vous verrez ça.
C'est vrai.
Ah, suspense, vous verrez
non,
ça.
Non, mais il est allé en Turquie.
Ah, à Istanbul. J'ai pas le droit de trop.
Ah, mais sérieux?
Pas le droit de trop en dire. faudra être là demain, à l'écoute demain à 22h pour le retour de Gilbert. Dans quelques minutes, la mafia et les ultras en Italie, comme promis avec Johan. Mais d'abord, on a retrouvé non pas la 7e compagnie, mais Julien Laurence pour nous parler de Tottenham. Julien, donc qui est en grande forme, comme on le disait tout à l'heure.
Oui, non, mais comme tu le disais tout à l'heure, 5 victoires de suite pour Tottenham, toutes compétitions confondues, c'était très bien avant ce match à Brighton et surtout une très bonne première période. Et c'était vraiment un match tellement typique de première ligue comme la première ligue sait les faire, comme on l'aime. Alors il y a pas que chez nous, hein, mais c'est vrai, c'est ces matchs là, c'est les beaux. Les Anglais ont une expression pour ça, c'est le game of two halves. Donc en fait un match qui s'analyse dans les deux périodes, finalement dans les premières 45 minutes et les deuxièmes 45 minutes, une minute dans chacun. Finalement c'était vraiment ça. Hier on a vu un très bon Tottenham en première période, mener 2-0, être super dominateur, presser très bien, contre-pressing parfait, laisser quasiment rien à Brighton, alors que c'était pourtant le match à Brighton. Et à la pause, alors qu'ils menaient 2-0, qu'ils auraient même sûrement dû mener 3-0, et qu'ils étaient vraiment, mais en contrôle total, je sais pas ce qui se passe, à la pause, mais ils reviennent sur le terrain en seconde période avec des ambitions complètement différentes. Ils arrêtent de presser, ils se mettent à reculer, ils prennent un premier but à la 48e minute, et puis après ça s'enchaîne, 2-2, 3-2, Postecoglou sur son banc, stoïque, aucune réaction, pas un changement, pas un coup de gueule, rien du tout. J'ai trouvé c'est ça bizarre, tellement ça, décevant de sa part. Ouais, vraiment bizarre. Alors, je suis un très très grand fan d'Ange Postecoglou, j'adore ce qu'il fait, mais on l'a souvent répété dans l'émission, malheureusement pour lui, quand il a un plan, c'est le plan A, il a pas de plan B, pas de plan C, pas de plan D. Quand le plan A marche très bien, parfait, première période à Brighton, match à Manchester United il y a une semaine, tout ce qu'on veut, mais quand le plan A ne fonctionne plus pour X raison, il n'y a plus rien derrière. Et ils se sont effondrés, mais comme on a rarement vu ça hier, même lui a reconnu après le match, c'était inacceptable. Alors dans l'histoire de Tottenham, c'est pas la première fois, hein. C'est l'équipe d'ailleurs qui s'est fait le plus remonter après avoir mené 2-0 ou avec 2 buts d'écart en première ligue dans l'histoire de la première ligue. 10 fois déjà, donc c'est pas que lui et c'est pas maintenant. Les Anglais appellent Tottenham le Spursy. C'est devenu même une expression dans le langage courant. De quand t'es Spursy, c'est que quand t'es, tu t'effondres, quoi. Il y a un moment où tu t'effondres. Et c'est ce qui leur est arrivé hier. Après, il faut donner du crédit à Brighton, à Hurtzeler, à Danny Welbeck, à tous ces joueurs-là pour avoir jamais abandonné et avoir continué à croire en eux et avoir su revenir dans ce match-là. Mais c'est vrai que le fait dont la façon dont Tottenham s'est effondré, l'effondrement de Tottenham dans la rencontre d'hier est assez inquiétant, je trouve.
Ouais. Si vous avez d'autres questions pour Julien Laurence, n'hésitez pas à nous appeler au 32-16, comme par exemple quelle est la marque de son téléphone pour que ça capte aussi mal. N'hésitez pas, vous faites le 32-16.
C'est un Scoopy, c'est même pas mon téléphone, hein. C'est un Scoopy, le Scoopy de la radio.
Scoopy, c'est un appareil qui permet notamment aux commentateurs dans les stades de se brancher et de pouvoir commenter avec normalement un Scoopy SDN ou un Scoopy Internet.
Ah, j'ai un Scoopy qui est aussi vieux que toi, j'ai l'impression, Fredo. Hein, c'est
voilà, là, il doit pas être en forme alors. Hein.
C'est bien ce que je te dis.
On me dit dans l'oreillette que le ISDN n'existe plus, donc.
Non, mais ça passe par le téléphone ou ça passe par Internet, ton Scoopy?
Non, Internet, mais pourtant.
Bah normalement ça marche bien.
Désolé.
En Angleterre ils n'ont pas.
Ah mais tu vois ça fait longtemps que t'as quitté l'Espagne déjà Fredo.
On est sur une île.
Ouais sur une île c'est plus compliqué. Ouais.
Direction l'Italie les gars avec la semaine dernière cette news qui a fait grand bruit. Johan ce coup de filet dans le milieu ultra en Italie. La police a arrêté la semaine dernière 18 ultras du Milan et de l'Inter arrêtés soupçonnés d'avoir des liens avec la mafia. Quel lien entre les ultras et la mafia, Johan? Les liens sont forts depuis longtemps et la mafia est là dans beaucoup de strates du foot italien.
Ouais, exactement. C'est un sujet qui est délicat parce qu'il y a mille choses à expliquer. On n'aura pas forcément le temps de faire le tour, mais dans l'after plusieurs fois quand on a évoqué des sujets autour des supporters. Qu'ils soient ultra ou non d'ailleurs, j'expliquais qu'en Italie tu parles pas simplement à des supporters, tu sais très bien à qui tu parles et que les dirigeants peuvent pas toujours faire ce qu'ils veulent parce que en Italie il y a beaucoup de virages qui sont noyautés par la mafia, alors qu'elle soit peu importe, hein, calabraise, napolitaine, sicilienne, que ce soit des clans de Rome d'ailleurs, aussi moins connus mais tout aussi présents, parce que en fait, il y a deux éléments clés qui les ont fait arriver là. Première chose, pouvoir, et deuxième chose, l'argent. Le pouvoir, c'est quand tu. Alors attention, il faut faire très attention quand je dis qu'elle noyaute les virages, qu'elle est présente en virage. C'est pas dire que tous les virages sont composés de mafieux ou que la mafia est 100% des virages italiens. C'est pas ça. C'est notamment dans des cas précis de l'Inter ou du Milan, quelques personnes. Qui sont affiliés de près ou de loin à des clans très connus et qui, quand je dis noyautent le virage, c'est en gros, eux, ce sont les chefs, les autres suivent. D'ailleurs, certains sont pas spécialement au courant de tout ce que font les chefs de certains virages et certains tombent un peu des nues, comme à l'Inter où on avait un article dans la Gazzetta dello Sport cette semaine, enfin ce week-end, qui disait il y a beaucoup de gens en Courvanor qui se sont dit mais attends. Parce qu'à l'Inter, en deux ans, il y a deux capos qui sont quand même fait tuer, hein, ouais. De la Courva Nord, qui ont été assassinés. Et les mecs tombaient des nues en disant comment ça, extorsion de fonds, comment ça, les joueurs appellent l'entraîneur pour avoir des billets en plus pour les revendre à prix d'or, comment ça. Donc, il y a une prise de conscience aussi dans les virages italiens que ceux qui se disaient, qui se réclamaient être les premiers supporters des clubs, ceux qui avaient le club dans le sang étaient peut-être là pour d'autres raisons, et notamment le business, parce que aujourd'hui, pour faire simple, hein, et schématiser un peu, l'un des plus gros business de la mafia en Italie de manière générale, c'est le trafic de drogue. Quiconque est déjà allé, notamment dans les années 2000, dans les virages, a vu que les petits sachets, on les vendait sans aucun problème dans les virages, et que c'est les mecs qui récupéraient l'argent, que certains déplacements servent à transporter de la drogue. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Et ça, c'est le business, on va dire, de la mafia classique, pas forcément lié au football. Et ensuite, pourquoi le football et le virage attirent aussi la mafia? Parce que il y a un business qui est très juteux, c'est la revente de billets. Il faut savoir qu'en Italie, il y a beaucoup de clubs qui sont vérolés, ou en tout cas des dirigeants qui sont mis sous pression et sous menace de certains supporters pour avoir des billets. Alors avant, les billets, c'était pour en faire plaisir un peu à tout le monde et les donner. Là, aujourd'hui, c'est pour les revendre à prix d'or. Et pour générer de l'argent, un billet qu'on touche à 140 euros, il va être vendu 700 euros. Vous multipliez par le nombre de gens en tribune, par le nombre de matchs dans l'année. Par exemple, quand André Agnelli de la Juve, président de la Juve,
dans ma tête, ça fait beaucoup d'argent.
Ça fait beaucoup d'argent, a décidé de porter plainte contre certains membres de son virage pour extorsion parce qu'il était menacé. On lui disait, si tu nous files pas des billets, nous on va foutre le feu à ton stade. On va faire des cris racistes, comme ça ton stade il sera fermé. On va siffler tes joueurs, comme ça instaurera un climat très difficile. Il faut savoir qu'à la Juve, on avait estimé le butin par an à 1,5 million d'euros. Juste sur les billets. Vous rajoutez à ça la gestion des parkings aux alentours du stade. Vous rajoutez à ça le quand tu vas prendre ton panino avant le match ou tu vas acheter une écharpe du match. Soit c'est directement géré par ces clans-là, soit c'est une redevance. En gros, t'as le droit d'être là, mais par contre, pour être à cet endroit-là, bah tu vas nous donner un petit peu d'argent,
un petit pource
chaque soirée, un pourcentage de ton chiffre d'affaires. Bref, c'est très compliqué. Et aujourd'hui.
Alors juste parenthèse, on continue bien sûr, mais à 21h37 et sur ce sujet qui lui tenait à cœur, Daniel Riolo nous rejoint dans Génération After spécial Drôle de Dame. Salut Daniel.
Salut les amis. Daniel. Je voulais pas rater ça.
Bah oui,
Johan le sait. Hein,
exactement.
Je l'ai chauffé ce week-end.
Exactement.
Ah ouais. Puis Thibaut t'as teasé depuis une demi-heure et j'étais à deux doigts, comme t'étais pas là, je disais on aura David Beckham à 21h57. Roberto Baggio à 22h20. Voilà.
Ouais, ça y est, je déflore toutes nos surprises aussi.
Exactement.
Non mais tout ça. C'est toi qui m'as demandé en plus.
Oui, évidemment, mais comme je te voyais pas.
Et tout, tu m'as dit vas-y viens avant lundi et tout.
Il voulait te protéger par quelqu'un alors qu'il parlait de la mafia, c'est pour ça. Il a besoin d'un garde du corps. C'est pour ça.
Non, c'est juste que si dehors vous savez pas ce qui tombe.
Ah, ok.
Et ça explique mon retard. J'ai un déluge, mais c'est incroyable. Ah, on n'attend plus que Noé, là.
Après, ça va se
dérouler
sur les pouilles jusqu'à fin octobre.
Arrête,
pour le voyage de monsieur Jean Grande. Ah. Non, mais tout ça pour dire que ça s'est monté un petit peu ces derniers jours parce que, après le deuxième assassinat d'un membre de la Courva Nord, d'un des chefs de la Courva Nord, par un autre chef de la Courva Nord, pour des histoires de business, de pouvoir et de contrôle du business de la Courva Nord. Évidemment, les autorités italiennes se sont intéressées à tout ça et ont arrêté une vingtaine de personnes des virages du Milan et de l'Inter. Rappelons quand même qu'il y a quelques années, je crois que c'était 2019, il y a Diabolik, le fameux leader des Irriducibili, irréductible groupe d'extrême droite de la Lazio qui s'est fait, buter une balle dans la tête dans un parc, le parc des Aqueducs à Rome que doit connaître
Daniel. Ça s'appelle buter, ouais, ça.
exécution totale en pleine journée, et que après les autorités italiennes ont fait des saisies dans le business de Diabolik. Il y en avait pour une centaine de millions d'euros en drogue, en hashish, en cannabis, en cocaïne, en héroïne, tout ce que vous voulez.
Ah ouais.
Donc c'est pour ça que c'est très difficile et surtout c'est très difficile de les contrer, mais de manière générale, là on parle de stade, mais on pourrait parler de la société italienne. C'est très difficile de les contrer parce que ils sont partout, parce qu'il y a un maillage qui est très important, parce qu'ils sont malins, parce qu'ils ont une puissance financière qui est énorme, parce qu'ils infiltrent même les autorités italiennes, la police,
justement,
la justice,
quand y a des
les politiques.
Quand il y a des coups de filet, quand la semaine dernière, est-ce que Johan, Daniel, vous pensez qu'on est sur un
c'est
vrai...
C'est une goutte d'eau, là. C'est une goutte
d'eau. Ça, c'est une goutte d'eau ou qu'on est sur un vrai début de ça va changer en Italie?
Non, mais c'est comme toujours, quand tu as des coups de filet dans la société, sur des business de mafieux, tu te dis, ouais, c'est cool, ça en fait toujours ça de moins, mais derrière, ça repousse comme les mauvaises herbes, donc... La situation est très délicate. Ça sera très difficile de contrôler les virages italiens. Même ceux qui ont essayé ont eu des difficultés. Par exemple, Lotito à la Lazio. Quand Cragnotti a passé la main à Lotito, ancien propriétaire versus nouveau propriétaire de la Lazio, Lotito a dit, alors pas pour des raisons, je suis contre la mafia. Lui, c'était plutôt parce que c'est Picsou. Donc tout ce qui est, je donne de l'argent ou je donne des billets, c'est hors de question. Mais il a dit aux membres de la Courva Nord de la Lazio, hors de question que je vous donne des billets, moi. Je ne vais pas vous donner des billets. Ben, le mec, ça fait 20 ans qu'il est sous protection policière.
Alors, une question importante. C'est-à-dire, tu dénonces, enfin, on est allé vous dénoncer un système mafieux parmi les ultras,
oui.
Ou c'est vraiment.
Oh, oui.
Est-ce qu'il y a. C'est un système mafieux ou c'est vraiment la mafia qui contrôle
non,
ça
non, non,
c'est
non,
la,
non,
c'est
non,
vraiment
non.
La, c'est la mafia.
C'est la mafia.
Il n'y a pas
c'est les clans connus de la Drangheta,
est-ce qu'il y a des groupes indépendants parmi les ultras qui font leur business et qui ne sont pas dans la mafia? Ou c'est vraiment qu'au-dessus il y a la mafia.
À partir du moment où tu as une économie, il apparaît évident que des gens se disent on va aller taper
donc
dans
la
cette
mafia,
économie.
Donc quoi qu'il arrive, les grandes mafias ils sont quoi.
C'est pas forcément la grande mafia. J'espère que vous savez quand même qu'il y a beaucoup de tribunes en France qui fonctionnent de la même façon, sauf que c'est peut-être pas à ces niveaux-là. Mais il y a énormément de tribunes qui fonctionnent comme ça et des ultras
c'est un système mafieux.
Parfois c'est du bricolage quand tu vends, quand tu revends des places ou des t-shirts ou que tu croques sur les déplacements, la location des bus, que tu contrôles qui peut rentrer, qui peut pas rentrer. T'es dans un système qui est à peu près équivalent. Bien sûr. Après la culture en France des tribunes est peut-être un peu moins développée, donc tu as peut-être moins de choses. Mais il y a quelques stades en France qui fonctionnent de cette façon-là. Sauf que c'est des sujets qui sont pas beaucoup abordés dans les médias. Et
je veux dire en France.
Ouais, je comprends pourquoi. parce que c'est dangereux. C'est peut-être le seul truc qui est véritablement dangereux pour les médias aujourd'hui.
Waouh. T'es en train de mettre une ambiance sur ce plateau.
Mais non, 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 moi moi je sais que j'ai toujours dit qu'il y a plein de trucs que je savais sur les tribunes que je dirais jamais.
Ah ouais?
Bah oui, mais je suis là pour parler de foot. Ouais. J'ai pas envie que ça, tu vois, que ça
tourne mal. Mais ça m'arrange pas ce soir en tout cas. Attends le lendemain, Gilbert.
Non, il y a plein de trucs que je veux pas.
Il y a
plein de trucs, rien sur les présidents, les joueurs, les machins, tout. Je m'en fous, j'ai jamais eu peur de rien de tout ça.
Un peu la NFL
sur Twitter et tout, mais ça non. Je sais trop d'histoires, j'ai entendu trop de trucs, non.
Et les autorités alors en Italie, parce que là, oui, parce que là, moi j'avais dit que le sujet est passionnant.
Ah ouais, bah ouais.
Il y a eu des arrestations, ça veut dire que la justice italienne vraiment décide de nettoyer. Mais est-ce qu'il y a une volonté politique réelle? Parce que les politiques aussi se servent de la mafia pour les campagnes. Oui, donc
on a vu des ministres fricoter avec des leaders de certains virages, dont on sait que ils trempent dans le trafic de drogue. Si vous prenez un Matteo Salvini, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur et qui fricote avec le leader de la Curva Sud de Milan, on sait très bien que Luca Lucci, c'est compliqué. Et,
ok.
C'est un sujet qui est difficile parce que...
Bah, t'es quand même au courant qu'à Marseille, les couleurs d'affiches des campagnes électorales viennent des tribunes quand même.
Bah oui. Et bah, bon, puis on sait très bien ce qui s'est passé sous les années tapis. Bon, puis voilà. La gestion des billets. Bah oui,
oui, non, mais ça, c'est à la limite.
Et à Paris, c'est passé des trucs complètement folles aussi. Et les relations entre les directions des clubs et les groupes de supporters, elles sont.
Tu crois qu'en Espagne,
à Lyon aujourd'hui, ou qu'est-ce qui s'est passé pendant des années, voilà, c'est les tribunes.
Et tu crois qu'en Espagne, comment ça se passe? Quel est. Je redis,
en Espagne,
je
ne sais pas.
Ce qui s'est passé, je veux dire, quand Joan Laporta a viré les ultras, pendant un an, lui et sa famille ont été sous protection policière. Et quand Florentino Pérez, au Real, a viré les ultras sourds, la tombe de sa femme a été profanée. Et il était sous protection. De toute façon, il est toujours protégé, lui, parce que c'est un grand patron, il est toujours protégé. Donc oui, il y a une... oui, quand on veut, on peut, mais c'est très dangereux.
Oui, mais le premier qui avait compris.
Merci juste, de l'avoir ouvert ce soir.
Le premier qui avait compris en Italie. Non, juste 10 secondes. Le premier qui avait compris en Italie que les virages étaient une source pour eux de vote, etc. en Italie, c'est Berlusconi. Berlusconi, dans les virages italiens au début des années 2000, tu voyais les mecs tractés pour Forza Italia.
Ben ouais. Dans un instant, les drôles de dames sont à vous au 32-16. Alors, posez pas toutes les questions qui fâchent quand même. On va pouvoir sortir tranquillement et partir en week-end. Daniel Riolo, Fred Hermel, Johan est là également, Polo et Julien en direct jusqu'à 22h. Bah, fais le 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Thibaut Giangrande.
Avec les drôles de dames, comme tous les lundis soirs entre 20h et 22h, dans un peu plus de 10 minutes, c'est l'After, Nico Jamin, Daniel Riolo et Florent Gautreau avec vous jusqu'à minuit, toujours en direct sur YouTube, la chaîne de l'After. Dans un instant, les drôles de dames sont à vous, 32-16. Vous pouvez poser vos questions à Julien, à Polo, à Fredo et à Johan, mais d'abord la dernière minute du soir, la minute de Polo.
Aber wenn der Sonnenaufgang am Morgen liegt ins Dunkel, bringt und mich neben mir die nackte Wahrheit im Bett in die Knie zwingt.
Berk, Rote Flag, les drapeaux rouges. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette musique?
C'est que ça a l'air très bien. Ça a l'air très bien, Paulo.
Il a 19 ans, le gamin, et moi, il m'a bluffé. Mais c'était une chanson de l'année dernière, d'ailleurs. Il a d'ailleurs fait un concert avec un concerto qui était assez exceptionnel. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? C'est que la semaine dernière a eu lieu, vous savez, le système associatif allemand fait qu'on se réunit une fois par an. Ça s'est passé à Berlin au stade pour et le président Zingler de l'Union de Berlin a annoncé évidemment que l'Alte Försterei, le stade, allait se découvrir des nouvelles capacités puisqu'on va passer à plus de 40 000 places. Je rappelle qu'à l'Union de Berlin en ce moment on a 22 000 places et qu'il faut une loterie parce qu'il y a tellement de demandes que c'est pas possible, donc on va monter à plus de 40 000 places normalement, dont 32 000 places debout, ce qui est un peu une révolution et qui va peut-être dans le sens de ce que disent certains décideurs en ce moment, et en tout cas loin de ce qu'on a entendu depuis 20 ans. Et ce qui est intéressant, c'est quel est le moyen de financement? Eh bien, le Union de Berlin souhaite lever 60 millions d'euros. liées à des actions qui sont réservées à des personnes comme moi, qui sont membres de l'association d'Union Berlin. C'est pas gratos, hein, c'est 500 euros l'action, donc c'est pas donné. Dans une logique de lever ces 60 millions d'euros, ce qui permettrait d'avoir la majorité absolue dans le cas où l'association détient ses actions, et en gros à peu près 40 millions pour des différents actionnaires, dont des sponsors, etc. C'est une nouvelle façon de financer son stade, je trouve. Il y a sûrement déjà des cas qui ont existé dans le monde. Et ça commence au mois de décembre. Et donc, à partir du 1er décembre, je serai sûrement propriétaire d'une partie du nouveau stade qui devrait être fini en 2029 ou 2027, j'ai oublié. Donc, c'est important parce que ça permet d'éviter... on a souvent des débats, comment doivent évoluer les stades, et ceci et cela. Et si les membres de l'association sont majoritaires, on pourra éviter d'avoir forcément, j'ai envie de dire, des excès de certains sponsors ou tout, qui veulent faire des choses dans les stades. Donc voilà, c'est à partir du 1er décembre. 500 euros l'action, quand même, c'est pas donné.
C'est clair. Merci Polo pour cette belle minute. Dites-nous dans le chat quelle minute vous avez préférée musicalement parlant. J'ai bien aimé celle de Polo, mais ce soir le petit son italien d'Yohan m'a fait voyager. J'étais déjà dans les pouilles. 21h50, 32-16, vous posez vos questions à nos drôles de dames. Et il y a Yannick qui est là et qui nous appelle, qui a une question pour Fred Hermel. Salut Yannick.
Bonsoir messieurs.
Hola Chico. Ça va Yannick ?
Ça va très bien, ça va très bien.
Bon, t'as une question pour Fredo alors.
Alors, c'est une question un peu à tiroir, un peu compliquée. Ça concerne Dani Carvajal, qui s'est blessé dramatiquement dans la dernière minute du match. Donc, c'est un drame, on va pas revenir dessus. Moi, je voulais parler un petit peu de l'avenir, un petit peu de ce qui se pourrait... Bon, il y a Lucas Vázquez. Moi, je pense pas que ce soit Lucas Vázquez le remplaçant pour les gros matchs. Je partirais plutôt sur un Mendy qui va changer de côté avec le retour d'Alaba, éventuellement, ou Camavinga à gauche. Mmh. Ouais. Et moi, je trouve que ça pose beaucoup de problèmes, cette perte, parce que ça... désespagnolise l'équipe un petit peu, parce que mine de rien c'était le dernier vrai espagnol de l'équipe, ce qui est quand même au Real, on parle, c'est une équipe internationale, c'est pas comme le Barça où il y a toujours eu beaucoup d'Espagnols, mais il y en a toujours eu deux ou trois qui avaient des rôles très importants. Ça enlève un peu, on va dire, le rôle un garant de l'institution.
Donc quelle est ta question? Parce qu'il faut laisser la place aux autres aussi. Quelle est ta question alors?
C'est savoir ça en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va essayer de le remplacer? Est-ce qu'on va essayer de le remplacer par un espagnol?
Okay. La blessure est terrible. C'est-à-dire, il y a trois blessures au genou, dont ligament croisé, tendon, enfin, c'est un truc. Les médias espagnols ont consulté le grand spécialiste de ce sujet. C'est minimum un an pour qu'il revienne.
Daniel Riolo ?
Non, c'est quoi ?
Non, parce qu'il est... il a une deuxième carrière de chirurgien, on ne sait pas.
Ah oui, pardon.
Non, c'est pas lui, j'ai vu passer.
Non, mais Daniel Carvajal, donc c'est un an pour qu'il revienne. Et d'après ce médecin, il y a 50% de chances qu'il ne puisse jamais retrouver le même niveau. Ce qui se passe, c'est terrible pour lui, pour un joueur qui a 32 ans, donc c'est très compliqué. Oui, alors moi je pense que c'est la pire blessure qui pouvait toucher un joueur du Real. C'est le pire joueur, c'est le joueur qu'on ne peut...
Irremplaçable.
Irremplaçable. Déjà, parce que c'est le capitaine. Et comme l'a dit notre auditeur, son prénom c'est...
Yannick.
Yannick, tu as tout à fait raison. C'est l'Espagnol, il était formé au club. Moi j'étais là le jour où quand il avait 14-15 ans, où il a posé avec Di Stéfano la première pierre du centre d'entraînement du Real, de Valdebebas. Donc c'est quelqu'un d'essentiel. Et il a un super niveau. Donc le Real, oui, Lucas Vázquez, qui est un ailier droit reconverti par Zidane, latéral droit. Lucas Vázquez va faire le boulot jusqu'à Noël, mais ils vont devoir recruter. Ils vont devoir recruter parce que c'est pas possible. Il y a une possibilité, c'est d'avoir Militao latéral droit. Militao, quand il était au Portugal, il avait déjà à ce poste. Et au Real, il a joué trois matchs la saison dernière à ce poste. Donc ça peut être une possibilité. Mais pour l'instant, l'urgence, c'est Lucas Vázquez. Mais ils vont tout faire pour recruter au mois de janvier. Et c'est vraiment, j'insiste, c'est la pire absence possible pour le Real.
Voilà Yannick.
Merci Yannick. Ouais.
Mendy peut jouer à droite, je crois.
Parce que tu parles d'Alaba, mais Alaba, on ne sait pas quand il va revenir. Il n'a pas encore repris l'entraînement.
Merci d'avoir été là, Yannick. Bonne soirée. À bientôt. Salut. Bye bye. Tiens, juste avant de prendre Kimo qui nous appelle au 32-16, on nous demande dans le chat ta musique, Polo, le nom de ta musique. Tu vois, t'as des défenseurs. Tu l'as.
Rote Flyon, les drapeaux rouges, Berk.
Voilà. Kimo nous appelle au 32-16. Salut, Kimo.
Bonsoir à tous.
Bienvenue dans Génération After Drôle de Dame. Question pour Polo, tiens, Kimo. C'est pas sa musique.
Polo, on en a parlé plusieurs fois d'un joueur que, alors l'année dernière, on a échangé longtemps, tu n'étais pas du tout convaincu par le joueur. Pour toi, il a fait une très bonne saison. Il y a trois semaines, on en a parlé, il a encore, il est là, il est en feu en ce moment. Ce soir, tu parles du Bayern et tu parles même pas de l'homme qui a transformé le match hier pour Francfort, Omar Marmoush.
Omar
Arfouch.
Non, mais déjà, j'ai pas cassé Marmouche, l'Égyptien. Mais déjà, je l'ai pas cassé. J'ai dit que c'était un joueur d'une saison et il a joué en seconde division. Il a échoué à Wolfsburg. Il a déjà 25 ans. Il a réussi cette année, l'année dernière, à mettre 12 buts. Je vais pas m'emballer pour quelqu'un qui met 12 buts non plus, quoi. mais si tu veux, moi, en fait, c'est pas que ça me déplaît, mais si tu veux l'individualisation des joueurs de football, ça va à 5 minutes. Moi, ça me fatigue au bout d'un moment. Mais si tu veux, je suis tout à fait d'accord pour te dire qu'il porte l'Eintracht comme Ekitike d'ailleurs cette saison à Francfort, mais de là à en faire quelqu'un d'exceptionnel alors qu'il va très vite et qu'il est dans son prime en ce moment, mais très bien. Sauf que il faut aussi mettre Topmuller qui lui dit toi va jouer là-bas, parce que si j'ai critiqué entre guillemets le Bayern et ce que fait Vincent Kompany en ce moment, c'est parce qu'il laisse des espaces derrière et c'est pas admissible à ce niveau-là, au-delà du fait de se prendre un but à la 98e, si je me rappelle bien, le 3-3, t'as pas le droit quand tu domines de cette façon-là. Ensuite, tu me dis Marmouche, ok, tu l'as vu Marmouche lors de la première journée d'Europa League?
Bah oui, mais
le match qu'il fait.
Tu regardes pas les matchs de Francfort, c'est pas possible. Là, il y a tout le monde.
D'accord, mais ouais, c'est j'ai jamais vu.
Non, mais franchement, je pense que tu regardes pas les matchs de Francfort. Vraiment, il y a un problème.
Mais crois ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Et même ce soir, tu n'as même pas dit un mot alors que tout le monde en parle. T'es spécialiste du foot allemand. Donc c'est vrai.
Non, là, après, Kimo, là, c'est parce qu'on a choisi de partir sur d'autres sujets quand même.
Mais tu as raison. Je regarde pas Marmouche, t'as raison.
Non, mais que Polo ne regarde pas Marmouche, peut-être. Mais les sujets, fais-nous confiance quand même.
Non, mais c'est pas une critique. Vraiment, c'est juste par
rapport à là. Non, c'est un compliment en fait. J'ai pas dû manquer un match de Francfort depuis 15 ans, mais t'as raison. Mais t'as raison, dis que je regarde pas les matchs. Il y a des mecs à Dortmund aussi qui disent que je regarde pas Dortmund, mais t'inquiète pas, j'ai l'habitude, quoi.
Ouais, Kimo, merci en tout cas.
Par contre, tu vois, l'histoire de Francfort, je suis sûr que je la connais plus que toi, tu vois. Allez. Je la connais par cœur.
Merci pour la bonne ambiance de fin de soirée. Salut Kimo, à bientôt, merci d'avoir été là. Waouh, on finit l'émission.
Après
comme
la mafia, ils nous ont énervé Polo, là.
Ah non,
mais il a raison, Polo.
Je peux pas envoyer des cœurs pour Polo dans le chat, je peux pas rendre l'antenne comme ça, c'est pas possible.
Son prénom à l'auditeur, c'est S.
C'était quoi?
S, son prénom.
Non, pourquoi?
Ok.
Et Daniel, donc dans l'after dans un instant, forme monumentale, vous l'avez compris, avec Florent Gautreau, avec Nico Jamin.
C'est pas encore arrivé jusqu'à lui.
Non.
Est-ce qu'il est bon? Si.
Ah, quand même.
Merci.
Ça y est.
Je suis allé au cinéma quand j'étais petit.
Merci, mes drôles de dames. Johan Crochet, Fred Hermel.
Peut-être, va connu, toi, quand on mangeait des esquimaux au cinéma.
C'est notre époque, ça.
Ouais, ouais.
Comment on l'appelait?
C'est pas sûr qu'on a le même cinéma.
L'ouvreuse, on l'appelait.
L'ouvreuse.
Avec le panier en osier. Avec les chocolatis et les
esquimaux. Ah, mais si, j'écoute, mais ça existe encore, ça.
Ben non.
Bon.
Ça existe encore, ça.
Mais ça existe plus.
L'ouvreuse avec le panier en osier et les chocolatis.
Grand Rex, ou truc comme ça, je pense que ça existe encore.
Ben non.
Merci, les gars. Merci à Antoine et à Polo en régie dans un instant. L'after, Daniel Riolo, Nico Jamin, Flo Gautreau. Excellente soirée sur RMC. Ciao.